Voilà, et sans transition, nous allons parler de Pâques, de la résurrection un peu plus, même si on l'a beaucoup fait pendant les chants. C'est vraiment important de réaliser que si on chante ces chants avec tant d'enthousiasme, ça n'est pas quelque chose de fabriqué, ça n'est pas quelque chose de, c'est pas un faux enthousiasme. C'est qu'on ne peut pas se retenir quand on a vécu ce qu'Élodie mentionnait dans son partage là, comme moi je l'ai vécu encore récemment, comme d'autres le vivent, quand on est vraiment touché par Dieu, quand Dieu agit dans notre cœur et nous libère de la sorte, eh bien là, on ne peut pas se retenir que d'être joyeux. Parce qu'enfin, c'est comme si on respirait à nouveau, comme s'il y avait une bouffée d'oxygène qu'on prenait. Et c'est tellement important de célébrer ça dans la joie. Et si les chrétiens ne sont pas joyeux, mais ça veut dire qu'il y a un souci quelque part dans ce qu'on dit et dans ce qu'on prêche. Donc voilà, quelle joie de célébrer le Seigneur et sa résurrection ensemble. Merci encore à l'équipe de louanges. Et du coup, ce matin, on va parler de Pâques, comme je vous le disais, donc un très bref rappel de ce que c'est Pâques. Vous savez, il y a quelque chose qui est très important quand on est chrétien, quand on est disciple de Jésus-Christ, c'est de réaliser que notre foi chrétienne n'a pas démarré avec Jésus. Notre foi chrétienne prend ses racines dans le judaïsme, dans la foi des Hébreux. Jésus lui-même était juif, enseigné dans les synagogues. Et en fait, souvent, et moi c'était mon cas, j'ai grandi dans des mouvements d'église où en fait on connaissait très peu, on connaissait un petit peu certaines bases, mais très peu. Et c'est vrai que quand je suis allé en Israël moi-même, je suis un peu tombé des nues d'un coup en réalisant la profondeur de cette foi que nous avons, que j'ignorais totalement. Et que en fait cela date de bien plus avant et il y a beaucoup plus de profondeur voilà, dans ce qu'on vit que ce que je pensais. Et c'est le cas pour Pâques. Vous savez, ça n'est pas un hasard si Jésus est mort et ressuscité pendant la fête de Pâques. Il était à Jérusalem, on a mentionné les rameaux la semaine d'après, il est entré à Jérusalem une semaine avant, mais il venait pour cette fête de Pâques. Et ça n'est pas un hasard. Et en fait, Pessah en hébreu, je pense que je vous l'ai mis. Attendez, je vais essayer de faire marcher ça moi-même. Voilà. Pessah, en hébreu, ça veut dire passer par-dessus. Et en fait, je ne vais pas vous le lire. Vous pouvez le lire vous-même. C'est très intéressant. Si vous n'avez pas de Bible, venez me voir à la fin. Je vous en donnerai une. C'est très intéressant dans le livre d'Exode, qui a probablement été écrit par Moïse 1300 ans environ avant Jésus-Christ. Il y a cet épisode où vous savez que les Hébreux ont été en esclavage pendant, on pense, 400 ans en Égypte et il est venu le temps de la libération et Dieu élève Moïse, vous connaissez toute l'histoire de Moïse sauvé des eaux et un jour Dieu l'appelle à aller délivrer le peuple des mains du Pharaon qui avait réduit le peuple hébreu en esclavage et le Pharaon ayant endurci son cœur et même il est dit Dieu ayant endurci son cœur, il y a toute une série de plaies d'Égypte, on connaît toute cette histoire des 10 plaies d'Égypte. La dixième étant cet ange de la mort, le pharaon ne refusant toujours de laisser partir les Hébreux, eh bien, il y a cet ange de la mort qui vient pour... et il est dit que chaque premier-né de chaque famille mourra, sauf les Hébreux, à qui Dieu révèle, à Moïse du coup, de prendre un agneau sans tache, un agneau parfait, l'agneau pascal. Pourquoi on mange de l'agneau à Pâques? Voilà, ben, ça vient de là. L'agneau pascal. Qu'on sacrifie, dont on prend le sang, et dont les Hébreux, les indications, c'était de répandre le sang sur le linteau en bois, vous savez, de leur porte. Et bien sûr, on verra que Jésus a été sacrifié sur une croix en bois. Et le fait de répandre le sang de cet agneau parfait sur, eh bien, l'ange venait et passait par-dessus ces maisons. Pessah en hébreu. Voilà le sens de la Pâque juive. Et vous allez me dire, ben Mathieu, ok, quel est le sens? Et peut-être vous avez commencé, pour ceux qui ne savent pas tout ça, à percevoir le lien avec la Pâque que nous fêtons en tant que chrétiens qui vient de cette histoire-là. C'est qu'un jour, Jésus, au début de son ministère, il vient, et vous savez, il y a son cousin Jean-Baptiste qui avait commencé à baptiser les gens. Et d'un coup, Jean-Baptiste voit arriver son cousin. Et comment il l'appelle? Voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Et en fait, les Hébreux de l'époque de Jésus, les Juifs de l'époque de Jésus connaissaient très bien tout l'Ancien Testament, toute cette histoire de Pâques. Et il y a plusieurs ont la révélation que Jésus est l'agneau parfait. L'agneau parfait, l'agneau qui n'a pas péché et l'agneau qui va être sacrifié comme sur un linteau, sur une croix et dans le sang va être versé. il va mourir. Et le troisième jour, il va ressusciter. L'agneau immolé, ça veut dire l'agneau sacrifié. Jésus, l'agneau de Dieu. Amen. Voilà le sens de la Pâque juive. Et du coup, ce matin, remettons-nous dans le contexte de la résurrection. Donc, Jésus a été crucifié le vendredi, hein, on appelle ça Vendredi Saint, sur une croix. Il a rendu l'esprit, comme Olivier nous l'a dit pendant la louange, et il est mort sur cette croix. Et vraiment, on croit, certes, les clous, l'asphyxie l'ont tué, mais bien plus puissant que ça, il y avait le poids de notre péché, le poids de ton péché et le poids du péché du monde entier et du mien aussi qui était sur lui, qu'il a pris sur lui, l'agneau parfait qui a enduré à notre place le châtiment. Et le matin de Pâques, donc ensuite il y a le... Marco m'a dit que c'est... en anglais on appelle ça Silent Saturday, le samedi silencieux. Et ensuite, le dimanche vient, le dimanche de Pâques. Luc 24, pour ceux qui ont vos Bibles ou sur vos smartphones, à partir du verset 1. Le premier jour de la semaine, hein, pour les Juifs, c'était le dimanche, elles se rendirent, donc là il est parlé des femmes, donc il y avait Marie-Madeleine, il y avait une autre Marie, entre autres, qui était là. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11, et oui, Judas n'était plus là, et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, ils n'y croyèrent pas en gros, et ils ne crurent pas ces femmes, voilà. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis, il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. J'avais jamais remarqué, ça m'a frappé, que Pierre, à ce moment-là, était rentré chez lui. Il habitait Capernaum, à plusieurs centaines de kilomètres de Jérusalem, au nord, et c'est assez loin. Et ce détail ne m'avait jamais frappé. Quand j'ai prié, vous savez, Pâques, ça revient chaque année, j'avais pas envie de faire un message de Pâques qui ressemble à peut-être à celui de l'année dernière ou autre. Et je ne sais pas pourquoi Dieu m'a vraiment amené, alors que je priais, j'ai vraiment eu ça à cœur de parler de Pierre et de comment lui a vécu ces jours de la résurrection. Et je pense que Pierre, qui était un homme comme nous, humain comme nous, eh bien, il y a pas mal de choses qu'on peut voir dans ce qu'il a vécu au travers de tout cela. Donc, Pierre, parlons un peu de Pierre. Pierre était un pêcheur qui habitait Capernaum, un village au bord de la mer du Galilée ou lac de Tibériade, hein, donc au nord de Jérusalem. Il était marié et il avait, et c'est peut-être pour ça que Dieu m'a envoyé vers lui, il avait un caractère impétueux, assez impulsif et meneur. Donc ceux qui me connaissent savent que c'est des mots qui peuvent parfois me décrire, même si je me soigne. Et c'était un des plus proches disciples de Jésus, ça je prends aussi. Mais il ne faut pas limiter Pierre à cela. Son cœur était authentiquement attaché à Jésus. Et d'ailleurs, il va être le premier à confesser Jésus comme le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et il va être présent lors d'événements très importants dans les évangiles, vous pouvez lire ça, comme la transfiguration, mais aussi de nombreux miracles. Et il y a ce fameux miracle, vous savez, il sort de la barque, il marche sur l'eau en direction de Jésus et Jésus le secourt. Donc, en gros, Pierre, il vit des choses extrêmement intenses avec Jésus. Hein. Ce n'est pas un observateur un peu de loin, c'est quelqu'un vraiment qui vit ça de très, très près. Et il va même voir Jésus guérir sa belle-mère. Voilà, en gros, Pierre et Jésus sont assez intimes. Hein. Avec Jean, c'est vraiment les plus proches. Et il va prononcer cette phrase. Et j'avais vraiment à cœur de souligner cette phrase dans Jean 6, 68. où il dit « Seigneur », et d'ailleurs Olivier l'a mentionné pendant la louange, « à qui d'autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et pourquoi j'avais à cœur de mentionner cette phrase de Pierre pendant ces 3 années qu'il a vécu avec Jésus ? Parce que bien, notre foi chrétienne, et on a des visiteurs, c'est important d'en parler, parfois on peut paraître comme un peu fou, de se dire, mais on vient là un dimanche matin, on se réjouit, on saute de joie pour une personne ressuscitée, soi-disant, il y a 2000 ans. Mais pourquoi est-ce que ça a vraiment un sens tout ça? Et moi, les amis, j'ai envie de vous dire, et comme Élodie nous a encouragé, ouvrez vos cœurs ce matin. Parce que moi, je trouve que le monde dans lequel on vit n'a pas de sens. Quand on voit, si vous allumez la télé, n'importe quelle chaîne d'infos, est-ce que ce monde réellement a du sens? On parle toujours, oui, mais tu sais, l'homme au centre, le siècle des Lumières. L'homme a toujours voulu se placer au centre. Et moi, je crois que justement, c'est cette révélation qu'on a eue dans notre cœur, c'est ça, c'est que ce monde n'a de sens qu'au travers de Jésus et qu'au travers de Dieu son Père, qu'au travers de cette histoire du jardin d'Éden où Dieu crée l'homme pour être en relation avec lui. Et malheureusement, dès le commencement, l'homme choisit de mener sa propre vie. L'homme choisit de se mettre lui-même au centre, de décider par lui-même. Et malheureusement, aujourd'hui, nous vivons les conséquences encore de ce choix. Mais, si vous regardez Genèse 1, dès le commencement, le plan du salut en Jésus est prévu. Et c'est pour ça que nous sommes si joyeux, parce que nous croyons et nous le vivons, que Jésus est venu pour justement rétablir le plan de Dieu, de pouvoir être en relation avec le Dieu vivant, notre Dieu créateur. Amen. C'est tellement important de savoir d'où on vient. Et d'où notre planète vient, quel est son destin. Amen, Jésus, merci Seigneur. Et parce que oui, il y a de la maladie, il y a la guerre, il y a toutes ces choses qu'on voit, mais Dieu est là, Dieu est vivant. Et moi, je suis là, ce matin, je vous lis, on lit des passages de la Bible ensemble, moi, je vous dis des choses, mais ce n'est pas Matthieu qui est important ce matin. C'est ce que le Saint-Esprit vous dit, c'est ce que Dieu te dit à toi, que tu ne le connaisses ou que tu ne le connaisses pas encore. Dieu parle à ton cœur ce matin. Dieu parle à ton cœur, alors ouvre tes oreilles et ouvre ton cœur. Et du coup, Pierre, on l'a dit, il est fougueux et on vient arrêter Jésus, et il dégaine son épée, il coupe l'oreille d'un soldat romain. Vraiment, pourtant Jésus leur avait dit qu'il devait mourir, mais ils sont comme aveuglés, ils ne réalisent pas. Et Jésus, non, guérit le soldat, il dit non, non, non. Et il laisse Judas le trahir et il se laisse juger. Et Jésus leur dit qu'il va mourir, mais ils ne le réalisent pas. Et même, là, il y a cet épisode sur lequel je voulais aussi m'arrêter, c'est que Jésus dit à Pierre qu'il va le renier. Voilà, c'est des moments de grande tension. Hein. On vient arrêter Jésus, il y a beaucoup de tension dans ces moments-là, et Pierre est tellement fou qu'il lui dit « Mais non, jamais !» Donc Matthieu 26, 34, « Vraiment, je te l'assure, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras. » Jésus lui dit ça à son ami Pierre, « Tu m'auras renié 3 fois. » Et Pierre réaffirme, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous ses disciples dirent la même chose. Donc Pierre, vous voyez, il se fait un peu leader encore des disciples, et il est là rempli de fougue, et il lance ses paroles comme ça, sans savoir ce qui va se passer juste après. Vous savez, je pense, ce qu'il en est advenu. On continue, Luc 22, 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent donc, le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur juif. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu et au milieu de la cour, ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui !» Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » C'est Pierre qui dit « Non, je ne connais pas Jésus. » Peu après, un autre l'ayant vu dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement cet homme était aussi avec Jésus, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, imaginez là cette scène. Fermez les yeux, les amis. Juste imaginez-vous cette scène. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur Jésus, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite avant que le coq chante. Oh, 3 fois. Et étant sorti, Pierre pleura amèrement. C'était son ami. Ça faisait 3 ans qu'ils étaient quasiment tous les jours ensemble. Manger ensemble, dormir ensemble, vivre des miracles, des aventures extraordinaires. Et à ce moment-là, Pierre il réalise pas, je pense, il renie son ami. Non, je ne le connais pas. Comme si Jésus n'existait pas dans sa vie. Et là, Jésus le regarde. Et Jésus était bien sûr passé par le fouet, par toutes les tortures romaines. Il regarde son ami. Et là, on peut imaginer à quel point Pierre réalise d'un coup. D'un coup, il réalise. Et le poids de culpabilité qui tombe sur lui. Il pleure, c'est écrit amèrement. Amèrement. Voici le dernier échange de Pierre avec son ami, son Seigneur, son Jésus. Imaginez sa tristesse. Il est tellement abattu. Et là, on revient au dimanche matin, 2 jours après. Alors que les femmes viennent et disent « Le tombeau est vide, le tombeau est vide !» Et peut-être que Pierre se dit « Non, mais imaginez le samedi que Pierre a dû passer, triste presque à en mourir, je pense. » Et il se dit « Bon, il court quand même au tombeau, il se dit « Peut-être je vais le voir, je ne sais pas. » Il arrive au tombeau et qu'est-ce qu'il voit ? Le linge par terre dans lequel était embaumé Jésus. Et là, deux possibilités, soit il se dit « Bah, il est vivant, peut-être qu'il se dit « Non, c'est bête, on a volé son corps. » Peut-être que quelqu'un a roulé cette pierre, on a volé son corps. C'est ce que la tradition juive a perpétué jusqu'à aujourd'hui, la Bible nous dit. Mais peut-être, encore pire, je me dis, si ça se trouve, il se dit ben, « Il est peut-être ressuscité, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec lui aujourd'hui ? Je l'ai trahi. Pourquoi il voudrait de moi encore aujourd'hui ? Pourquoi il voudrait me voir ?» Et ça m'émeut quand je dis ces paroles parce que je pense qu'on trahit tous Jésus aussi dans notre vie. Par nos choix parfois, par nos décisions, notre mode de vie, peut-être par notre incrédulité comme Pierre ce jour-là, peut-être que par des déceptions où on va chercher le secours dans autre chose que lui. Tout ça, je pense que ça peut être des moments où on renie Jésus. Où on renie qui il est, où on renie qu'il est notre Sauveur, notre Seigneur qui est mort et ressuscité pour nous. Et souvent, il y a un poids de culpabilité qui peut venir sur nous. Et on se dit, ah non, mais je sais qu'il faut que je prie, je sais qu'il faut que je lise ma Bible, je sais qu'il faut que je me rapproche de Dieu. Mais au fond de nous, on se sent coupable, on a honte, parce qu'on s'éloigne de Dieu. Et on ne fait pas les bons choix parfois et on subit malheureusement les conséquences de ces mauvais choix. On voit les conséquences dans nos vies. Et là, il y a encore plus de culpabilité qui vient. Et un désespoir de se dire, mais qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Jésus peut avoir à faire avec moi maintenant ? Je l'ai renié, je me suis éloigné de lui. Et vous savez, ça me fait penser à une période de ma vie, il y a un peu plus de 15 ans, juste avant que je rencontre Emmanuel, j'avais, bien qu'ayant connu Dieu, enfant, et ayant vécu des choses, des expériences fortes en tant qu'enfant, je m'étais éloigné de Dieu. Et j'avais fait des choix, des mauvais choix, consciemment. Comme Pierre, comme si je reniais Jésus, c'est-à-dire que je connaissais l'existence de Jésus, mais j'avais fait d'autres choix et j'en subissais les conséquences. Mais ça n'est pas resté ainsi. Par la grâce de Dieu, c'est ce de quoi on va parler maintenant. Dieu m'a permis par tout un tas de rencontres et aussi par sa parole de revenir à lui et de recevoir son pardon. De recevoir son pardon. Et même moi, de me pardonner moi-même, d'être pardonné par mes amis, moi de pardonner, mais de recevoir le pardon de Jésus. Et à ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé ? Par la lecture de la Bible, et je me rappelle un jour en particulier, je lisais ma Bible et j'avais envie de nourrir ma foi, de m'entretenir. J'étais en train de revenir à Dieu et je lisais ce livre, Une vie motivée par l'essentiel, si certains l'ont lu. Et c'était fou comme à chaque page que je lisais, c'était tellement de la vérité pure, mon cœur était ouvert, ça coulait dans mon cœur et j'avais l'impression comme une vie nouvelle qui était en moi, et du coup j'allais, à l'époque j'étais étudiant infirmier, j'allais à l'école d'infirmier, et je me sentais presque invincible. Il y avait comme cette nouvelle vie qui coulait en moi, et j'avais un bien-être qui est difficile à décrire, une plénitude si vous voulez, parce que Dieu, dans sa grâce, m'a pardonné à ce moment-là encore, et m'a restauré, malgré que je l'ai renié. C'est un peu l'histoire de Pierre, et je pense que c'est l'histoire de beaucoup d'entre nous. Parce que, vous le savez, ça n'est pas resté ainsi. Il y a un petit verset que je n'avais jamais réalisé, qui prouve que, a priori, il y a eu une entrevue après cela, entre Jésus et Pierre, en privé. Si vous regardez Luc 24 à partir du verset 28, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, alors là, c'est les disciples, vous savez, les deux disciples en chemin d'Emmaüs. Vous connaissez cette histoire, hein. C'est pareil, on est le dimanche de la résurrection. Lorsqu'ils furent près du village, donc près d'Emmaüs, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, donc là il part de Jésus, hein, qui était venu à leur rencontre. « Reste avec nous, car le soir approche, le jour de son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se rendirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant « Le Seigneur est réellement ressuscité !» Il y a ces quelques mots qui m'ont frappé et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qu'il leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il leur parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous !» Et il est apparu à Simon. C'est incroyable de réaliser que Jésus, sa grâce tout de suite, il n'a pas cet état relationnel entre eux. En fait, je pense que Pierre, lui, était très très mal. Mais Jésus, il aime tellement Pierre. Tout de suite, il a restauré la relation avec son ami. On imagine, elle n'est pas décrite, cette entrevue, mais il y en a une autre après qui est décrite. La résurrection, c'est vraiment le fondement de notre foi. Et la résurrection est une manifestation de la grâce de Dieu. Quand on voit Jésus qui pardonne à son ami Pierre, c'est sa grâce qui se manifeste. Il s'est passé ce qu'il avait promis en Matthieu 16, 21. Il devait être mis à mort et ressuscité le troisième jour. La grâce de Dieu. Les amis, si chacun d'entre nous peut être là aujourd'hui, vivant dans cette pièce, tout est par grâce. Je ne sais pas si vous avez étudié le corps humain. Je ne sais plus si c'est 10 jours ou 3 semaines de vie. Le cœur du bébé dans le ventre de la maman se met à battre. Essayez de comprendre pourquoi même les plus grands médecins n'y arrivent pas. Un beau jour, il y a un signal électrique, probablement des échanges d'hormones, de la chimie. Un beau jour, un signal électrique se met et ce cœur se met à battre. Et on sait que ce cœur peut s'arrêter et qu'un jour, notre vie terrestre va s'arrêter. Mais il se trouve que si on est vivant, c'est par grâce. Mais je voulais vous demander aujourd'hui, qu'on voit ensemble, qu'est-ce que c'est que la grâce ? Mince, j'ai un super outil, je ne m'en sers pas. Peut-être qu'il ne marche pas, je ne sais pas. Ah, ça marche, c'est merveilleux. Ça, c'est la grâce, vous voyez aussi, d'avoir des super outils comme ça. Voilà. Qu'est-ce que la grâce ? Lisons Éphésiens 2. « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, et là c'est Paul qui parle en tant que chrétien, nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes, nous vivions selon nos propres désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Mais, voilà la grâce, mais Dieu, riche en bonté, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns avec les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble, nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Donc qu'est-ce que la grâce ? C'est la beauté, c'est la faveur imméritée. Nous étions morts à cause de nos fautes, à cause du jardin d'Éden et d'Adam et Ève qui choisissent de s'écarter de Dieu. Nous étions morts, nous méritions la mort, nous avions décidé de rompre la relation de vie éternelle avec Dieu. Nous étions morts. Et d'ailleurs, vous disiez, oui, Matthieu, tu nous parles, pourquoi non, pourquoi mort, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? On voit la mort se manifester dans notre monde tous les jours. On la voit, ce n'est pas forcément l'arrêt, la mort dans le sens de quelqu'un qui meurt, qui va au cimetière. On voit des manifestations de la mort. Quand on voit la souffrance dans laquelle nous pouvons être parfois, où les gens autour de nous sont, on voit la mort se manifester. Et nous étions morts. mais Dieu riche en bonté, à cause du grand amour. C'est ça la faveur imméritée. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons pas d'être vivants. Nous ne méritons pas quelconque récompense. C'est parce que Dieu nous aime. C'est ça la grâce. C'est immérité, c'est gratuit. Les amis, c'est gratuit pour nous, pas pour lui. Il a dû payer. Jésus a payé de sa vie. Jésus a payé. Gratuit, grâce. Amen. Mais c'est aussi la beauté. Vous savez, gracieux, vous regardez les Jeux Olympiques, quand on voit les champions olympiques, par exemple, de danse sur glace français, incroyable. Et souvent, on dit des gens, quand ils exécutent des actions comme ça, il y a une grâce. Ils sont gracieux. Il y a une grâce. On dirait que c'est facile. Ils font des quadruples, des quintuples sauts en l'air. Ils retombent sur un pied, sur un morceau de leur patin. Et on a l'impression que c'est facile quand on les voit faire ça. C'est la grâce. Parce que la grâce de Dieu, c'est de faire ce qui est impossible. Lui, il le fait. Ce qui est impossible, lui, il l'a fait. Il est mort et il est ressuscité. Et c'est aussi la puissance. Et je voulais vous montrer sur la grâce un épisode de ces derniers jours qui m'a vraiment marqué. Je ne suis pas là pour faire du buzz sur ces choses-là, mais vraiment, j'étais profondément touché par cet épisode. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les journaux. Ça se passe en Ukraine il y a quelques jours. Et c'est une famille qui est dans un immeuble, je pense. Et d'un coup, les missiles tombent. Et qu'est-ce que fait la maman? Elle se jette sur son bébé et elle se met au-dessus de son bébé comme ça. Et le mari, on lit dans l'article, s'est mis aussi par-dessus sa femme parce que les bombes étaient en train de tomber. Et alors qu'il raconte ce qui s'est passé, donc les bombes se sont arrêtées. Ils ont dû ouvrir les yeux, voir qu'ils étaient toujours vivants, et ils se sont relevés. Et là, la maman fond en larmes, je vous paraphrase l'article, la maman fond en larmes parce qu'elle voit du sang sur son bébé. Et elle dit, mais regarde, il a du sang sur lui. Et là, il y a une phrase du mari qui m'a percuté. Il a dit, non, ça n'est pas son sang, regarde, c'est ton sang. C'est le sang de la maman et du papa, par extension, je pense, qui a coulé pour protéger, pour sauver cet enfant. De la même manière, la grâce de Dieu, c'est que son sang a coulé pour que nous puissions vivre. La grâce de Dieu, c'est que Jésus est mort pour que nous puissions vivre. Il nous a ressuscités avec lui. Waouh ! Les amis, la résurrection, ça n'est pas une métaphore. Oui, on dit que la mort se manifeste et que la vie de Dieu peut se manifester dans nos vies. Et parfois, on fait des métaphores, on fait des symboles comme ça. Mais avant d'être une métaphore, avant d'être un symbole, la résurrection, c'est un fait avéré. Jésus est mort et le troisième jour, il est ressuscité. Et il y a des dizaines, on voit dans la Bible, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui l'ont vu. Je crois qu'il y a à peu près 200 personnes qui l'ont vu après sa résurrection. Les amis, croyez, j'ai pas de Bible, c'est le mauvais dimanche pour ne pas avoir de Bible avec moi, tout est sur mon iPad. Croyez à ce livre. Croyez à ce livre. Vous savez, renseignez-vous ce qui s'est passé, je crois que c'est dans les années 50, dans les grottes de Qumran, alors qu'on a retrouvé les écrits d'Ésaïe, les écrits qui dataient de 400, 500, 600, 700 ans avant Jésus-Christ. On les retrouve dans les années 50, mot pour mot, les mêmes. Ce livre est vrai, les amis. Si tu n'en as pas, viens me voir, je t'en donnerai un. Et ce qui est écrit dedans est vrai. Il est mort, il est ressuscité pour nous. Ça, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'on peut vivre comme si Jésus n'était pas ressuscité. Bien souvent, malheureusement, on voit des chrétiens qui... Alors, bien sûr, on a des crises dans nos vies. Et bien souvent, on voit des chrétiens qui sont tristes. Mais c'est normal d'être triste pour un temps. Mais on devrait être des gens remplis de vie. Remplis de vie. Parce qu'il est mort et parce qu'il est ressuscité. J'aimais beaucoup cette citation. Il n'y a pas d'autre raison pour la grâce que la grâce. Amen. Il n'y a pas d'autre moyen pour entrer en relation avec Dieu que par grâce. Et vous savez, je vous paragraphe un épisode qui s'est passé juste après, la deuxième pêche miraculeuse. Et là, il y a les disciples qui retournent chez eux, du coup, en Galilée, et qui vont pêcher. Ils font leur boulot, hein, c'était des pêcheurs. Donc, ils vont pêcher. Et d'un coup, sur le rivage, ils voient un homme qui les appelle. Le matin était venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ? » Je pense qu'il est juste content de retrouver ses amis. Il veut juste faire un bon barbecue de poisson sur la plage avec eux. Il leur répond dire non. Il leur dit « Jetez le filet de l'autre côté de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, donc ça c'est Jean, dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Et là, Simon, qu'est-ce qu'il fait ? Il retrouve encore son ami. Il se jette à l'eau pour aller retrouver Jésus. Il est tellement content de voir son Jésus, son ami. Il se jette à l'eau. Et ensuite, il partage du poisson. Et qu'est-ce qui se passe ? On continue à lire les versets. Qu'est-ce que Jésus fait ? Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Et là, c'est la restauration ultime de leur relation. « Simon, fils de Jean, Jésus lui demande, m'aimes-tu une fois ?» Plus que ne le font ceux-ci. Oui, Seigneur, répondit-il. Tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis il lui demanda une deuxième fois. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui répondit Simon. Tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Et une troisième fois. Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois. Peut-être Pierre ne réalisait pas. Pourquoi Jésus lui demande ça trois fois ? C'est la troisième fois que Jésus lui demandait. Qu'est-ce que Pierre avait dit trois fois ? Qu'est-ce que Pierre avait fait à Jésus trois fois ? As-tu de l'amour pour moi ? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Et là, il y a Jésus qui lave le reniement, les trois reniements, par trois déclarations d'amour que Pierre peut racheter. Cette relation avec son sauveur, trois déclarations d'amour à son sauveur. Et qu'est-ce que Jésus fait ? Il lui donne une mission. Prends soin de mes brebis. Donc, non seulement Pierre est restauré dans sa relation, mais il n'est pas disqualifié. Pierre est appelé à être un des plus grands apôtres. Et on va bientôt fêter la Pentecôte et on sait ce qui se passe le jour de la Pentecôte avec Pierre. Il le maintient dans son appel, dans la mission qu'il lui a confiée quelques jours auparavant. L'amour de Jésus, c'est l'amour du Père, et j'en finirai par cela. Oui, Dieu, Jean 3,16, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Les amis, avant d'être un juge, Dieu est un Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Les amis, qu'est-ce que c'est la perdition ? C'est être loin de Dieu. Quand on s'éloigne de Dieu, c'est là qu'on est perdu. Pensez à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils ont voulu se cacher de Dieu, mais Dieu savait très bien où ils étaient. On ne peut pas se cacher de Dieu, mais ils ont voulu se cacher. Quand on essaie de se cacher de quelqu'un qui voit tout, c'est là qu'on est réellement perdu. Et pour qu'on échappe à cette perdition, par amour, Dieu a envoyé son Fils. Avant d'être un juge, Dieu est ton Père. Et Jésus, ce matin, te fait la même invitation qu'il a fait à Pierre il y a 2000 ans. « Suis-moi. » Jésus a dit ces trois mots à Pierre. « Toi, suis-moi. » Et Jésus te fait cette invitation ce matin. « Toi, suis-moi. » Est-ce qu'on peut fermer les yeux ce matin ? Finir en priant.